L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec Mille et Une Vie Habitat, Omélior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour les amis. Voilà, nous sommes toujours en direct avec un petit peu de son dans le micro, ça ira mieux. Pour justement aborder cette deuxième partie de l'AMIF édition 2023, est-ce qu'on peut avoir un peu de son de retour? Voilà. Un peu de son, voilà. Vous m'entendez bien là dans le micro?
Oui.
Voilà, c'est bien. Merci Théo. Il est 14h19, on va aborder cette table ronde autour des questions cruciales de la fabrique des territoires en matière d'aménagement, de logement, mais pas que, aussi de tertiaire, de zone logistique, de messagerie et en fait de concentration aussi urbaine à la fois fonctionnelle et d'usage. Pour en parler, une personne que je vois régulièrement d'ailleurs sur les plateaux, il nous fait toujours le plaisir de passer sur Radio Immo, sur Territoria. Il est le maire de Bussy-Saint-Georges, président des PAMARD, qui est un plus gros aménageur français. Il est conseiller départemental. Yann Dubosc est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Écoute, ça va très très bien.
Je suis ravi de vous voir. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Vous êtes en pleine forme. On va parler politique. On va essayer de le faire avec une mine résolument constructive, même si j'allais dire que le timing n'est pas toujours à l'éclat en ce moment. Loin s'en faut, notamment avec la restitution. Ça ne nous a pas échappé, Yann, qu'a faite Elisabeth Borne sur le Conseil national de refondation, dont on parlera tout à l'heure. Pour en parler, un professionnel de l'immobilier, il est directeur de l'investissement et de l'asset pour le groupe Castignac, c'est Julien-Claude Bouilly avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Sylvain.
Et merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau, parce que je sais que vous n'étiez pas en super forme là tout à l'heure, mais vous avez tenu absolument à venir à l'émission. Surtout, parlez bien dans l'axe du micro. On va commencer un petit peu par un tour d'horizon, comme on le fait chaque année, Yann.
Oui.
Quelle est la température politique du moment aujourd'hui en Île-de-France?
Elle est compliquée parce que, je dirais, le contexte lui-même est extrêmement compliqué. On a un contexte de crise, notamment pour quelque chose qui nous concerne, je dirais particulièrement aujourd'hui, sur le logement, sur l'aménagement en général, et puis sur des décisions politiques qui se font attendre au plus haut niveau. Hein, si on prend l'exemple du logement, si on prend l'exemple, je dirais, du climat, voilà, on n'est pas forcément, nous les maires, satisfaits, soit du niveau d'information, soit du niveau de décision ou d'absence de décision qui se font attendre aujourd'hui. Donc voilà, c'est une situation complexe. Et le problème, c'est qu'on nous annonce une 2024-2025 et qu'ils ne le seront pas moins. Donc voilà, donc les perspectives ne sont pas forcément les plus...
C'est quoi, c'est une absence de visibilité, une absence de moyens.
Et puis de sentiment de soutien, je dirais, aux maires que nous sommes, qui sont, nous sommes les premiers acteurs de l'économie, également. Et on n'a pas ce sentiment, en tout cas, dans tous les domaines. Il y a des domaines sur lesquels il n'y avait aucune difficulté, mais notamment sur les prospectives, sur les soutiens financiers, sur les visions que l'on pourrait avoir. On ne va pas revenir sur le débat de la fiscalité locale, mais tous ces éléments-là jouent vraiment pour que nos concitoyens, se posent des questions et, je dirais, le manifestent, quelquefois, avec beaucoup d'agressivité envers les maires.
Ça ne s'arrange pas du tout au niveau de la fiscalité locale, mais alors pas du tout.
Non.
C'est d'ailleurs assez inquiétant, mais moi j'ai quand même envie de se poser cette question à l'homme politique que vous êtes. Vous en avez fait de la politique.
Oui.
Comment expliquer la surdité, le déni de réalité d'un exécutif qui ne voit pas ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils attendent? Que ça brûle dans les rues?
Bah, écoute,
qu'on ait une cristallisation au niveau du logement? L'offre de logements locatifs privés et sociaux n'a jamais été aussi basse.
Oui.
C'est une catastrophe.
Oui. Mais ça brûle déjà dans la rue. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques années qu'on assiste à des manifestations de plus en plus violentes, mais on assiste aussi localement à une agressivité de la part de nos concitoyens qui, par cette absence de perspective, se retournent vers les maires et demandent des explications aux maires sur les politiques nationales.
Mais
on se retrouve, nous, pris en porte-à-faux, et on l'a bien vu, avec la perte de la main fiscale avec la taxe d'habitation, on se retrouve aujourd'hui à ne taxer qu'une partie de la population, c'est-à-dire les propriétaires, qui ont le sentiment d'être toujours taxés pour tout et n'importe quoi.
Très juste.
Et comme tu le disais tout à l'heure, notamment sur le logement, on est pris aussi entre deux feux, c'est-à-dire que chaque projet, chaque programme immobilier entraîne une réticence de la population de plus en plus violente. C'est-à-dire que tu vas avoir une pétition, tu vas avoir des recours sur les permis de construire, parce que tout le monde veut des équipements, tout le monde veut de l'aménagement, mais personne ne le veut en face de chez lui.
Oui.
Et comme...
C'est la méthode Puma.
Voilà. Je suis pour, mais ailleurs. Résultat,
ouais.
On a quand même, je dirais, une demande extrêmement forte. Et nous, sur Marne-la-Vallée, on est sur un secteur je dirais, qui est hyper attractif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique effectivement de foncier pour produire du logement, on a plus une problématique politique. Et comme derrière, tu te retrouves tout seul face aux difficultés, bah, quelquefois, bah, il est plus facile de ne pas faire que de faire aujourd'hui du logement.
Est-ce que, alors, toi, tu as la réputation, Yann, d'être un maire bâtisseur ?
Oui.
Un maire constructeur ?
Oui.
Mais bien, quand je dis bien, tu ne fais pas n'importe quoi,
oui.
tu as une vision à 360 degrés de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, comme certains de tes collègues, finalement, pourquoi je signerais les PC aujourd'hui, puisque j'ai plutôt tout à perdre qu'à gagner. Est-ce que, quelque part, l'attentisme généré par une administration centrale jacobine fait qu'à un moment donné, même le maire qui bâtissait se dit bah, « ça ne vaut plus la peine ».
Évidemment, on se pose la question parce qu'on se retrouve confronté à toutes les difficultés seul. Et quand je dis seul, c'est absolument seul. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de promoteurs qui sont pris à la gorge, notamment avec les coûts des matériaux, avec les prêts bancaires, et on se retrouve avec une baisse assez importante, assez notable, de la qualité des logements construits, notamment sur le neuf. Donc là, tu imagines effectivement que non seulement tu as les difficultés au moment du lancement du projet, tu as des difficultés au moment de la livraison, tu te retrouves avec des habitants qui sont mécontents, avec des associations écolos qui te font des procès, je dirais, moraux à longueur de journée. Donc la solution la plus simple est de se dire bah, « je ne vais pas faire ». Je ne vais pas faire. Et puis moi, qui suis opération d'intérêt national sur Bussy, qui est l'obligation de faire, ben justement, on essaye effectivement d'accompagner la population sur l'ensemble des projets, de mettre les équipements en temps et en heure au moment de l'arrivée des nouveaux citoyens. Moi, j'accueille à peu près 1500 personnes par an de plus.
Donc,
bien évidemment, il faut que l'ensemble des équipements publics suivent. Et donc,
combien d'habitants à Bussy ?
Aujourd'hui, on est à 30 000. Dans les années 80-90, nous étions 500 habitants.
Wow.
Donc 30 000 aujourd'hui et 50 000 en 2040.
C'est énorme.
Donc ça veut dire que la problématique de logement et d'aménagement à Bussy-Saint-Georges se pose dans d'autres proportions. C'est-à-dire que ce que mes collègues vivent, je dirais sur un projet, moi je le vis par 5 ou 6 projets par an.
C'est très clair. Voilà. Julien Claude-Bouilly, vous avez la particularité. D'abord, on va, pour le public, si vous voulez bien, qu'on parle un peu du groupe Castignac. Quel est le périmètre de l'activité ? Alors vous avez... Une particularité, c'est que vous êtes spécialisé dans l'univers de la logistique, on peut dire les choses comme ça, et de la messagerie urbaine. Vous apportez des solutions extrêmement concrètes pour fluidifier en fait, les flux de marchandises, mais pas que de services au niveau des territoires. Mais parlez-nous un petit peu de votre groupe, qu'on vous connaisse un peu mieux.
Alors Castignac, en fait, c'est la branche qui s'occupe de la logistique du groupe BTIMO, qui est un opérateur un peu plus global, qui fait également du logement, qui a... contribuer également à la revalorisation de friches industrielles, notamment dans le nord de la France, et également en région parisienne, grandement.
Oui.
Et donc Castignac est une société qui est dédiée justement à la logistique, de proximité et à la grande logistique. Donc on est dans un système où on a des grands entrepôts déportés, avec une logique plutôt nationale, de l'entrepôt régional, local, et puis après une distribution qui se fait jusqu'aux clients en fonction des business, soit B2B ou B2C. Là, on va vraiment des fois au cœur des territoires, au cœur des villes, pour pouvoir donner un service, en fait, des mètres carrés aux utilisateurs qui, eux, en fait, vont transporter les colis jusqu'aux utilisateurs.
Aujourd'hui, le terrain de jeu de Castignac, c'est pas la France entière, hein.
C'est la France entière. On a effectivement... des fois des volontés débordées sur les autres pays limitrophes, plutôt francophones. Et on a un mandat, en fait, Castignac a un mandat avec un investisseur qui est Brookfield pour en fait déployer de l'equity à travers la logistique pour cet investisseur.
Oui, parce que c'est des investissements qui sont très très lourds, très conséquents.
C'est oui, parce qu'aujourd'hui, Castignac, c'est à peu près 800 000 m2 d'actifs sous gestion, opérationnels, on va dire, avec... 200 000 m2 de pipe encore, donc on est pas très loin du million de m2. On continue l'agrégation des actifs dans le portefeuille et on a volonté à dépasser la barre symbolique du million de m2 avec une valorisation du portefeuille qui est sensiblement équivalent au milliard d'euros. Donc effectivement, on est sur des gros volumes, on est sur des projets qui sont colossaux. Quand on voit Yvalet, qui a un projet qui fait 550 000 m2 de PC autorisé obtenu.
Vous connaissiez Yvalet ?
Oui.
Hein ? C'est un... formidable, hein,
comme initiative. Avec un bâtiment de 100 000 m2 qui est aujourd'hui utilisé par la route.
C'était un terrain qui appartenait à l'armée.
C'était un terrain qui appartenait à l'armée. Alors, ça va intéresser...
Oui, c'était la base, c'est le Cateau-Cambrésis. Hein,
c'est ça, c'est la B103.
Absolument, la fameuse B103.
La B103 qui, l'État en fait est parti, et ils ont donné en fait à l'euro symbolique aux communes cette base militaire qui était sur... une particularité, c'est qu'elle était sur trois territoires en fait. Voilà. Et c'est compliqué en fait pour les élus après de redynamiser en fait et de retrouver un équilibre économique parce qu'ils ont perdu beaucoup d'emplois indirects parce que l'activité de la base a des choses. Et il a fallu en fait l'imaginaire de David pour essayer de les convaincre de faire une base logistique. À la clé, c'est 5000 emplois. Donc la logistique crée de l'emploi dans les territoires ruraux et pas que, en fait. Et si vous avez, par exemple, des entrepôts logistiques, on est sur une dizaine d'emplois pour 10 000 mètres.
Alors, c'est avec vous, hors antenne, d'ailleurs, qu'on parlait de l'emploi. C'est très important, ce sujet, parce que souvent, on oppose au monde de la logistique, Yann, quand on parle d'entrepôt, en disant que c'est générateur de peu d'emplois. Mais en fait, non. On en a parlé ensemble. Vous avez un potentiel, vous m'avez donné des indicateurs pour un potentiel de création sur une dizaine de sites de combien d'emplois environ?
Ben, par exemple, quand on est sur la messagerie la livraison, le bâtiment du dernier kilomètre, le fameux last mile, qui en termes d'exploitation, on va être à peu près entre 80 et 120 personnes sur site.
Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois finalement au niveau national.
Si vous avez 10 sites, effectivement, vous créez une dizaine de milliers d'emplois.
Ouais,
c'est sur des territoires sur lesquels en fait d'emplois peu qualifiés, donc qui peut être aussi intéressant dans certaines villes, certaines communes.
Est-ce que Bussy va devenir une zone à faible émission aussi?
Alors on y travaille fortement, ça fait partie de l'ADN de l'aménageur public et l'ADN des élus, mais pour rebondir notamment sur la logistique, à Bussy l'année prochaine, on va commercialiser 700 000 m² d'activité le long de l'autoroute A4. Et justement, donc on va attirer les industriels, on va attirer la logistique, ce que j'appelle moi la logistique intelligente, c'est-à-dire celle qui ne fait pas que consommer du foncier, mais qui va créer un nombre d'emplois par hectare qui est dans le cahier des charges. Et pour attirer justement toutes ces entreprises de logistique intelligente, eh bien on va créer le premier hub hydrogène de production et de distribution d'hydrogène pour les véhicules lourds de l'Est parisien. C'est-à-dire qu'on va produire à peu près 5 mégawatts d'hydrogène par an sur le site de Bussy-Saint-Georges. Donc on vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt. C'est la société Life, qui, avec Avia, notamment pour la distribution, qui vient de remporter cette AMI. Et donc voilà, donc on s'est dit, voilà, c'est un moyen d'attirer aussi les transporteurs, les chargeurs. On va être, je dirais, dans le dernier kilomètre de la ZFE, donc aussi un intérêt stratégique, et puis surtout dans le premier kilomètre, dans l'autre sens, vers l'Allemagne, et donc est un intérêt stratégique également. Donc on a des gros industriels qui se sont positionnés, et moi je suis très très vigilant, notamment sur la sobriété foncière, et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut faire aujourd'hui de l'industrie de la logistique en hauteur. C'est-à-dire que sur des terrains de 700 000 m², je dirais, dont à peu près 600 000 qui sont constructibles, eh bien, grosso modo, on va pouvoir avoir, je dirais, en vertical, ce qu'on ne peut plus avoir à l'horizontale. Donc, tout à l'heure, là, je serai sur BFM pour parler d'artificialisation des sols. Eh bien, voilà, ça fait partie, effectivement, de ces exemples-là. On va bien sûr artificialiser, mais on va le faire de façon intelligente également, en accueillant des industries et de la logistique intelligentes et créatrices d'emplois.
Est-ce que c'est typiquement des zones... Pour le périmètre de Castignac et du groupe BTIMO, intéressante.
Effectivement, en fait, la ZAC de la Rucherie, c'est le dernier espace en fait en Île-de-France sur lequel on peut faire une programmation logistique, parce que les fonciers se sont raréfiés pour la logistique, sachant que on n'arrêtera pas en fait la modification de la règle de consommation. Enfin, les consommateurs ont des consommations de plus en plus singulières et on doit prévoir toute cette logistique qui n'avait pas été prévue initialement. Les stocks étaient en magasin. Aujourd'hui, en fait, on réduit les tailles des magasins, donc on déporte les stocks. Et c'est une économie qui doit être repensée. Donc aujourd'hui, c'est les circuits de distribution qui doivent être au plus près des villes pour l'acheminement aussi en véhicule propre. C'est tout l'intérêt. Avec les problématiques de ZAN aussi, où on n'a plus le droit d'artificialiser les sols. Donc toutes ces problématiques et ces contraintes du développement territorial sans consommation de foncier, avec des problématiques économiques, on est vraiment au cœur de ces sujets et on espère en fait accompagner également les collectivités dans des réflexions comme ça, notamment avec des outils comme Smart Stadium.
Alors justement, je voulais aussi en parler parce que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout cette dimension. Smart Stadium, en résumé, vous aidez les collectivités locales en fait à redonner vie ou à rénover leurs bâtiments publics et en faire des bases un peu protéiformes et qui leur permettent d'avoir aussi un second souffle sans changer finalement la destination première du bâtiment.
On est dans cette problématique de verticalisation en fait, des installations où des fois il y a des équipements publics, collectifs, qui sont pas forcément...
Exemple, une salle de sport,
un terrain de foot qui va être instabilisé, c'est un équipement qui est lourd à rénover pour un budget d'une commune. Nous, on se propose justement de le rénover, de le surélever et d'utiliser en fait une partie du volume.
On surélève un stade ?
On peut surélever un stade, oui.
Ah bon ?
Le stade en lui-même,
c'est un espace neutre, donc effectivement. Oui.
Mais
c'est,
ah oui, c'est très étonnant comme... que je comprenne, voilà, il y a un stade, il monte.
Mais quand on est en territoire très contraint, très urbain en fait, très contraint, le terrain de foot finalement, on ne peut pas construire au-dessus. On ne va pas construire quelque chose au-dessus.
Non,
un gymnase, on ne construit pas au-dessus, en fait. Mais on cherche de la mixité aussi. Dans les villes, on cherche cette mixité, on cherche à utiliser le territoire au mieux. Et ben, en fait, on peut remonter cet équipement collectif, faire profiter à la mairie d'une installation, enfin à la commune et aux administrés d'un équipement neuf qui va pouvoir répondre à la problématique de cet équipement. Et on vient après, nous, dans un équilibre économique, utiliser le volume inférieur, en fait, donc rez-de-chaussée et les sous-sols.
Que je comprenne. Il y a un rez-de-chaussée. Là, il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, une galerie commerciale, un food court.
On est plutôt sur
des bureaux,
du parking.
Non, un parking, oui.
Du parking, pas trop sur du bureau, pas trop, on n'envisage pas trop en tertiaire, parce que au final, après,
séparation. Il peut y avoir du commerce.
Il peut y avoir du commerce, bien sûr, mais ça dépend où il est placé, quelle est la logique. Okay.
Et au-dessus, il y a le stade.
Au-dessus, il y a le stade, oui. Ou un équipement, une salle des fêtes.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais c'est là où c'était intéressant. Par exemple, moi j'ai découvert plein de choses quand on a commencé à réfléchir sur du stationnement intelligent aussi. J'aime bien ce mot intelligent, ville intelligente, avec les parkings silos. Aujourd'hui, le parking silo, moi j'avais encore l'image de ce qu'on peut voir sur le périph' quand on circule sur le périphérique parisien. Et en fait, je vous dis, voilà, la verticalité, c'est qu'on va faire du stationnement, on va faire du commerce en rez-de-chaussée, et puis on peut faire du tiers-lieu ou d'une salle de sport, je dirais, tout en haut, et pourquoi pas effectivement un équipement sportif sur la terrasse. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui était d'abord en usage un simple stationnement devient un lieu, un écosystème, je dirais, qui permet de le rentabiliser aussi, parce qu'un parking silo, ça coûte relativement cher. Ça coûte moins cher que quand tu enterres effectivement dans le sol le stationnement. Mais voilà, donc effectivement, je connaissais pas le Smart concept. Stadium, mais j'aime bien le concept parce que ça permet effectivement de mutualiser un certain nombre d'usages. Et quand on cherche, même si Bussy Saint-Georges a encore beaucoup de foncier disponible, à un moment donné, tout le foncier va être occupé. Et si on veut développer des activités, ça sera essentiellement verticalité.
Logistique urbaine, la livraison par drone, un data center, fabrication de masques avec un Fab Lab, l'agriculture urbaine, parking, stockage, terrain de sport, fitness.
C'est tous les usages possibles. Oui, c'est tous les usages possibles en fait qu'on peut avoir dans un projet comme ça en fait. Alors,
est-ce que quelque part vous changez un peu le prisme habituel de ce qu'on appelle entre guillemets la logistique ou la messagerie, avec quelque chose de plus global, de plus mixte?
Alors, nous, en fait, on propose des surfaces, on n'invente pas la logistique. La logistique, elle se renouvelle par elle-même, et c'est la supply. Aujourd'hui, en fait, ce sont les entreprises et les consommateurs qui ont ces besoins et qui ont fait ces changements. Nous, on les accompagne au mieux possible dans cette logique de distribution où, je vous dis, on va avoir un entrepôt qui va stocker en grande quantité à l'extérieur dans une région, peut-être à Cambrai, sur Ivalais. On va avoir du régional et après on doit rentrer dans les villes avec des problématiques de zones à faible émission, avec tous ces sujets-là qui vont augmenter en fait la complexité de trouver en fait des bâtiments qui peuvent répondre à cet usage. Et en fait l'idée c'est de pas mobiliser du territoire. Donc on va en dessous d'un équipement collectif, donc on gêne personne, on rénove un stade. Je veux dire c'est du gagnant-gagnant.
Oui, complètement.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah c'est exactement, je dirais, les réflexions que l'on a aujourd'hui. C'est cette sobriété foncière, même si elle est compliquée, même si, je dirais, il y a des contraintes fortes, eh bien maintenant, imaginons la ville de demain qui va plutôt s'élever que s'étaler. Et donc, voilà, la mixité des usages, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en aménagement aujourd'hui, mais là, elle trouve tout son sens. Et on imagine effectivement d'avoir plusieurs usages sur un seul et même bâtiment. Pour nous, en plus, un bâtiment qui peut être vertueux, qui doit être vertueux en énergie, on répond aux demandes de nos concitoyens, on répond aux exigences, je dirais, climatiques. Et en plus, effectivement, souvent, ce sont des très beaux objets. en termes d'architecture et autres. C'est pas l'image qu'on peut avoir effectivement aujourd'hui de la logistique. On a des bâtiments de logistique aujourd'hui qui s'intègrent parfaitement dans les paysages.
Est-ce que c'est vous qui l'avez créé?
C'est le concept.
Parce que je vois, c'est extrêmement bien pensé. Je vous montrerai, les amis, on le mettra sur le podcast, les infographies, c'est extrêmement bien pensé. En fait, vous surélevez la toiture sportive, un terrain de sport, donc avec l'éclairage, wifi, gardiennage, il y a vraiment absolument tout. Il y a un drone port urbain. Alors, ça, c'est l'avenir.
Ça, c'est l'avenir, oui, la livraison par drone. Mais ça peut aussi être un usage qui peut... On peut mettre des lockers qui peuvent être bien pour les commerçants locaux.
Des
lockers, en fait. C'est ce que utilise aujourd'hui, par exemple, Amazon. Quand il te livre et que tu n'es pas là, il te dépose ça dans un locker. Et ben, un commerçant qui...
C'est un coffre-fort spécialisé où tu mets tes...
Je connaissais pas. Un coffre-fort.
Si demain, tu as une commande que tu ne peux pas aller chercher, ton commerçant local peut déposer ça dans un conteneur prévu à cet effet, à proximité.
Je viens, une combinaison,
tu reçois un code.
Ou un code-barre.
Souvent, dans les supermarchés aujourd'hui, tu arrives, effectivement, et tu as ces différents coffres.
Génial.
Et tu peux mettre ton colis que tu veux envoyer comme tu veux.
Juste une question, le drone là, il arrive dans mon jardin?
Alors non, en fait c'est transport de drone.
Non mais ça va.
Ça peut être arriver, après c'est les opérateurs qui vont décider ces choix là, mais il y a des contraintes réglementaires sur la circulation des drones. Ils doivent uniquement passer par les voies navigables, chemin de fer, axes routiers, ils ne peuvent pas survoler les habitations.
Tu avoueras, Yann, que les promoteurs immobiliers ont des idées incroyables.
Mais oui, mais c'est ça, cette chance.
Ils ont une capacité d'innovation absolument incroyable.
Oui, parce que l'objectif, c'est de pouvoir effectivement inventer la ville de demain. Et si demain, il n'y a pas des idées ou des inventeurs, il n'y aura pas d'invention de la ville de demain. Et que ce soit les élus ou que ce soit surtout effectivement les acteurs privés, on a besoin l'un de l'autre.
Dernier sujet pour cette table ronde, qui vous concerne tous les deux, puisque à la fois on a le politique qui est prise en étau, le politique de l'élu local que tu es, Yann, pris en étau avec un pouvoir central, on va dire assez jacobin, à vouloir tout décider, et des promoteurs immobiliers multiprotéiformes qui subissent au quotidien des injonctions normatives qui pèsent énormément. Alors où c'est la totale, les DPE obligatoires pour le résidentiel, le décret tertiaire pour les bureaux, c'est...
Oui, puis on a des injonctions contradictoires par moment.
Voilà. Alors, d'ailleurs, on se demande, on est en droit de se poser la question de savoir comment on peut réinventer le métier de promoteur. Je vous donne quelques chiffres. On a une demande sur le logement résidentiel pour l'immobilier neuf qui a baissé de pratiquement 40% dans certaines régions. 40%. C'est-à-dire que c'est juste incroyable à imaginer. Une demande qui n'est pas une demande en termes de besoin de logement, qui est un effondrement de la solvabilité.
Oui.
C'est-à-dire que les gens n'ont plus ou n'ont pas suffisamment les moyens de pouvoir acheter du logement neuf, ce qui semblerait assez logique quand on est sur le parcours résidentiel. Premier point. On a vu en moins de un peu plus d'un an, Yann, 350 à 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt. C'est du jamais vu, moi je ne l'ai jamais connu. De façon aussi élevée. Mais conjointement à cela, on a une crise des matériaux avec une hausse très importante des matières premières et les coûts énergétiques qui sont mieux se rajouter là-dessus. Tout ça provoque une situation dans laquelle on n'a jamais atteint un niveau aussi bas à la rentrée de septembre d'offres locatives, par exemple, sur le marché, et se prépare avec la rentrée étudiante, les problèmes dramatiques de rotation, des grosses difficultés. Quand on est aujourd'hui, Julien, j'aurais plutôt avoir ta vision d'homme de l'immobilier. Quand on est face à ces défis-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, on reprend ses classes d'actifs, on dit on va être le plus opportuniste possible. Qu'est-ce qu'on fait dans cette interrogation qui, quelque part, remet en cause, dans une certaine mesure, les bases du métier? Et la dernière chose, enfin, c'est la restitution du Conseil national de refondation. Une catastrophe. On a acté la mort du Pinel, on a compliqué l'obtention du PTZ, et à la clé sur la demande de logement, il n'y a rien, même pas une niche ou une orientation fiscale qui permettrait de le faire. Ton analyse comme ça, globalement, quand on est à la place d'un groupe comme BTIMO qui est plutôt protéiforme, qu'est-ce qu'on se dit?
Mais nous, on est assez opportunistes dans nos visions des sujets. On fait aussi du logement.
Il vaut mieux l'être, ça c'est sûr.
On fait aussi du logement, on fait plutôt de la copromotion. Et c'est vrai que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les élus en fait, ont aussi beaucoup de difficultés aujourd'hui à être des élus bâtisseurs. Parce que c'était des gens avant qui qui n'avaient pas de problème à déposer des PC, et aujourd'hui en fait ils sont réélus des fois en s'opposant à des projets. Oui. Donc on est toujours dans un espèce de clivage où on a intérêt à travailler avec les collectivités pour essayer de, et c'est un petit peu le rôle et le but aujourd'hui de, d'un promoteur, c'est aussi de parler aménagement, d'expliquer les choses, de faire preuve de pédagogie. En l'occurrence, maintenant il y a des secteurs sur lesquels qui sont très compliqués. Mais le logement, pour nous, c'est une partie de nos activités. La logistique étant, pour Castignac, en tous les cas, un formidable. Il y a eu beaucoup d'engouement sur la logistique et ça reste encore un endroit où on peut s'exprimer sur les territoires.
Parce que les besoins en matière logistique sont très élevés en France. Je prends juste les zones à faible émission. Sur les problématiques de logistique du dernier kilomètre, aujourd'hui, on est loin d'avoir pourvu la demande.
Oui, et puis en plus, le marché est très tendu. Il n'y a plus d'offres locatives sur le marché. Mmh. Donc on est sur des offres qui sont à moins de 3% sur le territoire national. Donc on a une conjoncture qui est favorable aux promoteurs pour développer. Maintenant, après, on est sur des pressions qui sont mises sur les utilisateurs au niveau locatif. Donc, tout le problème est l'équilibre économique.
Bien sûr. Voilà. Oui, équilibre économique, c'est-à-dire que, en fait, vous avez la possibilité d'investir peut-être ce type de surface, sauf que le taux d'effort qui va être demandé aux utilisateurs est un peu élevé.
Il est un peu élevé, donc on est toujours dans cet équilibre à trouver
le bon modèle. Voilà.
Il faut trouver le bon modèle. Et avec, en fait, des banquiers qui ne font pas forcément leur métier. Quoi. Mmh. Je trouve qu'en fait, aujourd'hui...
On peut le dire. Hein.
Il y a effectivement les taux d'intérêt qui remontent, mais les marges sont relativement élevées aujourd'hui.
Non, c'est très clair, parce qu'on voit bien d'ailleurs, parce que s'accompagne à cette conjonction d'événements, le fait que les banques aujourd'hui prêtent absolument plus. Et quelque part, on saisit l'opportunité des conjonctures économiques et politiques pour finalement ceinturer bretelles là-dessus. À la place du maire que tu es, quand tu vois
bien
ça.
Bien sûr, il n'y a plus de prise de risque. Les promoteurs que je rencontre de façon très régulière me disent aujourd'hui, il faut vendre deux fois le même appartement parce que le premier, on aura un acquéreur qui ne va pas avoir son prêt bancaire. Donc ça veut dire que tout ce travail-là, un sur deux, là, on va assister, je dirais notamment pour des promoteurs qui ont des stocks, à des liquidations de stocks immobiliers pour reconstituer de la trésorerie, pour passer les 2 ans de crise qu'on s'apprête effectivement à avoir. Donc c'est un changement de paradigme complet. Et comme tu le disais, on se retrouve avec une pression de l'État à fournir du logement, avec, je dirais, une conjoncture qui n'est pas forcément favorable. Et puis cette réflexion sur le ZAN, qui est quand même... Au niveau des élus, et on le voit bien effectivement sur les discussions qu'on peut avoir au Sénat à l'heure actuelle, soit avec une incompréhension complète sur les niveaux d'information des élus, ou alors effectivement une pression forte de l'État. On parle d'observatoire, on parle de fiscalité, je dirais, de sanctions. En France, on aime bien sanctionner par la fiscalité, non pas, je dirais, soutenir par la fiscalité. Donc résultat, aujourd'hui, y compris d'ailleurs sur le développement tertiaire, où on est montré du doigt par des associations écolos quand on va construire de la logistique, de l'industrie, parce qu'on imperméabilise les sols de façon définitive, et qu'à un moment ou un autre, je dirais, on peut faire non seulement des choses assez intelligentes, mais en plus créateurs d'emplois. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut faire le choix, soit la sobriété énergétique et écologique et foncière, soit la création d'emplois. Or, moi, je dirais, sur ma commune, j'essaie de faire les deux en même temps. Mais c'est pas évident.
Ces injonctions-là, qui sont imposées aux maires, vous les vivez au quotidien.
On les subit.
Parce qu'ils vous le disent. Vous les subissez au quotidien. Parce que c'est vraiment une. Il y a parfois des incohérences. Ça vous est arrivé de tomber sur des élus locaux en disant j'aimerais faire, mais je peux pas et je le ferai pas.
La plupart, les maires sont quand même assez actifs et ils veulent faire. Mais après, effectivement, en fait, on est des fois face à des situations où on rencontre des administrations qui dépendent pas en fait de la. Du territoire, qui sont des administrations centralisées, qui elles en fait ont des ont beaucoup d'injonctions, oui, effectivement.
Quels sont les projets de Castignac en cours aujourd'hui, un peu emblématiques? Le développement d'Ivalet.
Il y a toujours le développement d'Ivalet.
C'est pas hier qu'un mirage s'est posé là sur le.
Alors, on a posé sur un rond-point effectivement, qui est un rond-point qui a les dimensions de la place de l'Étoile.
C'est génial. Racontez-moi ça.
On a mis effectivement un mirage qui était un mirage emblématique. C'était le mirage qui a opéré en fait sur la base. Et je crois que c'est le mirage 103, donc qui a été.
Et il est posé. Il est resté là.
Il est cambré, ouais, effectivement, il est en décollage.
Il est Cato-Cambrésis.
Voilà, et donc en fait, on a eu la patrouille. Enfin, il y a eu deux Mirages qui sont venus. Le général qui est venu inaugurer.
Il y avait Xavier Bertrand, je crois.
Ça fait partie effectivement des élus qui ont soutenu dès le départ, en fait.
Ouais. Formidable projet. C'est une base logistique des plus importantes d'Europe. Hein.
C'est le plus grand projet d'Europe, ouais, effectivement. C'est le plus grand parc logistique d'Europe. Donc ça a été porté en 2015 avec une vision qui n'était pas celle qu'avait le marché, où les gens, en fait, on a pensé que David était fou. Et...
Alors David, je ne sais pas si vous connaissez le président du groupe Castignac, qui s'appelle David Taïeb, je ne sais pas s'il nous écoute. S'il est derrière, en tout cas, voilà, un petit clin d'œil pour David Taïeb. En 2015, personne ne fait ça. Hein. La logistique, c'est un taux de rentabilité qui est assez méprisé par les investisseurs institutionnels classiques. Je caricature un peu. Hein. Et on a quelqu'un qui prend tout le monde à contre-pied. Et force de constater que 8 ans après, le temps lui a donné raison. C'est incroyable. Ben,
oui, parce que lui, sa logique et sa vision, c'était en fait, il voulait faire une grande zone pour en fait les commerçants. C'était en fait pour lui, pour le développement du e-commerce. Il voyait ça comme un développement du e-commerce. Et le e-commerce consomme beaucoup de surface. Il y a eu des articles de presse comme quoi en fait on n'a pas fini aujourd'hui sur le développement du e-commerce. Et on est encore aujourd'hui, le e-commerce va encore consommer plus de surface, plus d'espace. Il y avait un manque, alors c'était il y a 2 ans. Ils estimaient qu'en d'ici 2030, il fallait encore 20 millions de mètres carrés supplémentaires de logistique en Europe.
Il y a ceux qui disent que justement le e-commerce prend du foncier qui pourrait permettre aux gens d'y vivre et d'habiter. C'est un faux débat ou c'est une opposition stérile?
Bah en fait, de toute façon, il faut des équipements. Hein. Je veux dire, de la Rome antique, quand vous voyez les entrepôts qui ont été bâtis à côté de Rome, il faut toujours la logistique, ce qu'on n'a pas compris dans les territoires à un moment donné. Alors, j'ai vu une très belle ville avec un élu qui vendait les mérites de sa ville, elle était très belle, mais il n'avait pas prévu les équipements et il était dans un territoire très contraint où tout autour c'était très cher. Donc, remettre la logistique à plus loin ailleurs. Quand j'ai été dans cette commune, on m'a dit allez voir à 200 km si vous voulez faire un entrepôt. Donc,
ah ouais, carrément.
C'est pas dans les mêmes logiques de territoire. Donc il faut aussi pouvoir servir les.
Parce qu'il faut imaginer que quand tu mets un entrepôt à 200 km, il faudra 200 km pour livrer la ville.
Les temps de transport, oui, c'est ça.
Parce que tout ça est à contre-courant de ce qui se passe en ce moment. On veut être livré dans le dernier kilomètre. Donc une zone logistique, c'est quoi? C'est 50 km de rayon?
Alors, ça dépend des véhicules. Si on est en zone basse émission, on est en véhicule électrique ou en hydrogène, on n'a pas les mêmes autonomies. Donc,
Mais sur un territoire comme le tien, Yann, c'est quoi le périmètre? 50 km, 30 km?
De l'EPAM. Ouais, on est sur Bussy-Saint-Georges, on va pouvoir capter toute la région parisienne, en fait, quasiment. Donc, dans l'heure. Le rayon d'action, c'est en fait, on regarde à peu près dans l'heure de livraison, sachant qu'un camion se déplace à 90 km/h maximum et qu'il a des temps de pause obligatoires. On peut établir, les logiciens établissent ce qu'on appelle des plans de transport qui leur permettent de savoir où positionner leurs entrepôts en fonction des cut-offs qu'ils ont par rapport à des commandes en exécution. Et Amazon, en fait, pour pas les citer, ou d'autres, quand ils ont des commandes, ils peuvent livrer le soir même ou le lendemain, c'est parce qu'ils ont des entrepôts de proximité à côté. Et c'est ce qui plaît aux gens, c'est pour ça qu'ils commandent.
Mais bien sûr.
Ils veulent consommer rapidement.
Mais bien sûr, je veux dire, c'est ultra pratique. Voilà, il est 20h, je commande un petit truc, le lendemain matin, c'est dans ma boîte aux lettres ou c'est dans mon locker, justement. par exemple, j'ai appris une chose aujourd'hui.
Tu as découvert un mot.
Mais je ne suis pas fan des anglicismes, tu sais bien. C'était vraiment intéressant de vous voir tous les deux, justement, de confronter une vue extrêmement innovante que vous véhiculez à travers votre groupe, Julien, et bien sûr la vision de l'élu local que vous êtes. Merci beaucoup,
merci,
Yann Dubosc. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental, je vais le dire, parce que franchement, vous êtes départemental. Vous êtes également le président d'EPAMARNE, qui est le plus gros, il faut quand même le rappeler, le plus gros aménageur public. Et vous l'avez rappelé aussi, c'est vrai que votre territoire est forcément attractif, et que beaucoup, beaucoup de promoteurs viennent vous voir, bien évidemment, parce qu'on construit encore dans votre région. Oui. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'aménagements à faire. En tout cas, c'est un territoire attractif, puisque à l'échelle, finalement, de vos administrés, plus de 1500 personnes arrivent chaque année à Bussy. Moi, je peux vous dire que j'y suis allé à plusieurs reprises. C'est juste remarquable. J'adore le petit village, parce que je trouve qu'il a... Yann fait tout pour conserver ce côté bucolique.
Il est protégé dans le PLU, donc il ne lui arrivera rien.
C'est magnifique, parce que c'est vraiment... Hein, vous connaissez Julien, il est magnifique. J'aime beaucoup. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on sort de ce petit village, Debussy. On voit une ville qui est en train de se développer. C'est juste remarquable. Merci également à Julien-Claude Bouilly. Merci, merci d'être passé par le plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'asset management et de l'investissement du groupe Cassignac. On va faire un petit clin d'œil au fondateur et au directeur général, président directeur général de ce groupe. C'est David Taïeb qui nous écoute. On espérera l'avoir sur un plateau une prochaine fois. Des activités aussi multipolaires comme cette formidable initiative. On peut retrouver des exemples de Smart Stadium sur le site internet, on parle de ça.
Oui, on en parle. Après, le montage juridique est un peu complexe.
Hein. Ouais,
on
est sûr. C'est sûr. Hein. Voilà. Ça doit être.
Donc
vous avez des juristes, c'est des
artistes. Ça plaît aux élus la plupart du temps. Ouais. Et après, il faut trouver le montage, l'équilibre.
C'est quoi? C'est un bail amphithéotique? C'est une concession?
C'est un peu particulier. Hein, on peut en parler hors antenne avec les élus au cas par cas.
Merci beaucoup. Voilà. Et les amis, il est encore temps de venir ici à l'édition 2023 de la LIF. Vous voyez, on est en plein intervention du public. On se retrouve dans quelques instants.
La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.